France Culture.
L'entretien littéraire, Mathias Sénard.
Bonjour à toutes et bonjour à tous. Soyez les bienvenus dans la conversation littéraire. Aujourd'hui, une conversation littéraire consacrée à une partie de l'histoire de la photographie. J'ai la chance de recevoir l'auteur de bande dessinée Guy Delisle à l'occasion de la sortie de son roman graphique Pour une fraction de seconde aux éditions Delcourt et le grand historien de la photographie Michel Poivert pour parler de la vie, de l'œuvre et de la postérité de cet homme extraordinaire que fut Edward Muybridge. Bonjour Michel Poivert.
Bonjour.
Michel Poivert, vous êtes historien de la photographie, professeur à la Sorbonne. Vous avez longtemps dirigé la Société française de photographie. Et vous êtes l'auteur de nombreuses publications incontournables sur l'histoire de la photo et la photographie au XXe siècle. J'aimerais signaler, paru récemment aux magnifiques éditions du Bec en l'air, Dialogue photographique sur la route de la soie, photographié à un siècle d'intervalle par un maître de la photographie du XIXe, Paul Nadar, et un photographe contemporain, Paira. Mais on pourrait aussi citer La photographie contemporaine aux éditions Flammarion ou encore 50 ans de photographie française de 1970 à nos jours chez Textuel. Et bonjour Guy Delisle.
Bonjour.
Guy Delisle, vous êtes auteur de bandes dessinées très célèbres pour vos récits voyageurs et autobiographiques comme Pyongyang, Chronique birmane, Chronique de Jérusalem qui vous a valu le Fauve d'or du Festival d'Angoulême en 2012, ou toujours autobiographique, peut-être un peu moins voyageur, les quatre volumes du Guide du mauvais père. Et cet automne paraît, toujours aux éditions Delcourt, un roman graphique de plus de 200 planches consacré à la vie du photographe Edward Muybridge, une biographie absolument fascinante de ce pionnier de la photographie et de l'image animée. Guy Delisle, vous avez fait vos débuts dans l'animation. Est-ce que c'est à cette époque qu'il faut faire remonter votre intérêt pour Edward Muybridge ?
Oui, donc moi j'ai travaillé dans le dessin animé et à cette époque-là, pour étudier le mouvement, tous les étudiants achètent le livre de Muybridge sans le connaître, donc Human in Motion, que j'ai regardé avec beaucoup d'attention parce que c'est une référence qui est encore d'actualité, parce que c'est un livre qui se vend toujours, c'est assez étonnant, après 150 ans. Et je voyais bien que c'était des vieilles photos, mais je connaissais pas la vie de Muybridge. C'est plus tard, en écoutant la radio, que j'ai écouté un documentaire et j'ai vu qu'il avait eu une vie assez mouvementé, et ça m'a intéressé, j'ai creusé, et puis plus je creusais, plus j'ai trouvé que c'était une histoire intéressante à raconter.
C'était il y a combien de temps, alors, cette première rencontre avec la biographie de Muybridge?
Alors moi j'ai commencé, quand j'ai acheté Human in Motion, ça faisait en 88, voilà, quand je faisais mes études, et c'est un livre que j'ai gardé longtemps, que j'ai regardé avec beaucoup d'attention, et après, bon voilà, j'ai oublié le personnage, mais je me rappelais toujours de ces photos victoriennes en noir et blanc, de gens nus qui sautent, qui courent, et des animaux de tout genre zoologique qui cavalent, et après voilà, je pensais pas qu'il avait une vie aussi mouvementé.
Et alors justement, comment est-ce que, à quel moment vous vous dites, puisque c'était pas vraiment votre travail jusqu'ici, en tout cas vous vous intéressiez à d'autres choses que la biographie de quelqu'un qui ne soit pas vous, et à quel moment est-ce que vous franchissez ce pas et vous vous dites, ah mais j'ai envie d'écrire sur Edward Muybridge?
Ben, moi je lis beaucoup de biographies, et parmi les romans qui m'ont marqué, c'est vraiment des biographies. Je pense à celle de Jean Echenoz, par exemple, sur Ravel, sur Zatopek ou sur Tesla. Et je me disais, ça serait bien de faire une biographie. Donc ça fait longtemps que je traînais l'envie de le faire, parce que j'aime bien travailler avec un cadre, en fait. Donc faire que de la fiction, je me sens pas très à l'aise, je me sentirais pas à l'aise de faire ça. Donc c'est pour ça que quand je travaille sur mes notes et que je fais des autobiographies, voilà, j'ai mes notes, je les suis et je travaille, j'ai un cadre. Et là, avec la biographie, voilà, j'ai la vie de Muybridge et je me dis, ça c'est intéressant à mettre. Et voilà, bon, il a eu une vie mouvementée, lui, il était en diligence, c'était un homme assez sérieux et il a eu un accident. accident, il s'est cogné la tête et au bout de 9 jours de coma, il a changé du tout, tout, tout. Ses cheveux sont devenus blancs et il est devenu photographe. Il est devenu un peu foufou aussi. C'est pas un personnage très sympathique, mais voilà, c'était un génie de la photo.
Ah oui, un génie de la photo, on va y venir, un génie aussi, bien qu'il soit anglais, extrêmement américain, très lié au territoire des États-Unis de l'époque. Bien sûr, un moment extrêmement passionnant de l'histoire de la photographie, mais aussi une vie humaine, parce que l'album est contrairement entièrement centré sur lui. Je pense qu'il y a, même s'il y a des explications un peu autour du contexte photographique. Et comment est-ce que vous avez travaillé? Alors, est-ce qu'il est sa biographie était très connue, ou est-ce que vous avez été chercher un peu des sources à droite à gauche?
J'ai lu trois biographies que en anglais. Il n'y a pas de biographie en français. Et après, d'autres livres de photos. Et après, je prends la vie de Muybridge. Donc lui, il est né en 1830, il meurt en 1904. Et j'explique aussi le contexte, parce que d'expliquer qu'il est arrivé, il a fait de la photo, oui, mais il est arrivé à un moment où la photo, c'est encore très compliqué à faire. C'est des plaques de verre, c'est du collodion humide, c'est après le daguerréotype. Donc voilà, moi j'aime bien expliquer le contexte, plus peut-être que la vie de Muybridge, et d'expliquer que la photo, quand il a commencé, c'était comme ça. Donc c'était pas... Il se baladait dans la nature avec un laboratoire pour faire les plaques, les exposer et les développer. Ça faisait quand même 50 kilos de matos. Et il se baladait dans la vallée de Yosemite et il prenait des photos. C'est ce qui l'a rendu connu au tout début.
Oui, on va y venir. Et Guy Delisle, est-ce qu'il n'y avait pas déjà un défi? En fait, le défi n'est pas double, parce que la bande dessinée, c'est aussi finalement un art de l'image fixe. Et est-ce que c'était pas justement voir tout ce qu'il y avait comme relation entre la photographie, qui est aussi une image fixe, et la bande dessinée, c'est-à-dire de passer d'une forme de récit, parce que par exemple le mouvement, en bande dessinée, le mouvement c'est des conventions, on met des petits nuages quand ça va vite, des petits traits pour signifier l'avancement. Est-ce que ça aussi, ça faisait partie un peu de l'intérêt de d'écrire sur quelqu'un comme Muybridge?
Moi, mon intérêt du mouvement vient de loin, vu que j'ai fait mes études de dessin animé. Puis j'ai travaillé dans le dessin animé pendant une dizaine d'années, donc le mouvement fixe qu'on empile sur des feuilles de papier et qu'après on filme et on regarde, il y a toujours cette magie qui est toujours vivante. Quand j'en fais un petit peu, maintenant j'en fais plus beaucoup de l'animation, mais à chaque fois la magie du mouvement, Magic of Life comme ils disent en anglais, dans un livre très célèbre écrit par les animateurs de Walt Disney, voilà, ça marche toujours. Et moi je viens de la bande dessinée, mais je traîne toujours avec moi mon passé de dessin animé. Et les premières bandes dessinées que j'ai fait, donc Aline et les autres, c'était presque du dessin animé, parce que c'était des petites cases comme ça, avec des séquences. Chacune de ces petites histoires aurait pu être, un petit court-métrage. Et je m'en suis servi aussi dans Pyongyang. Je me rappelle que je fais la séquence de Kim Jong-il qui a le badge de son père, et on zoome sur le badge qui revient à la tête de Kim Jong-il après. Donc c'est des outils qui peuvent se servir, que j'ai toujours utilisés. J'ai fait aussi... une bande dessinée qui s'appelle Louis à la plage pour enfants, qui est en fait presque de l'animation. Il y avait des petits flipbooks dans les coins de page, comme dans celui-là d'ailleurs. Mais c'est ce qui est assez magique en fait, c'est-à-dire qu'avec du papier, si on arrive à les flipper, on arrive à avoir un mouvement, ce qui est toujours assez mystérieux, mais ça fonctionne. Et voilà, j'ai voulu parler un peu de tout ça dans le livre.
Oui, alors on dévoilera pas forcément la fin, donc on se doute bien qu'une biographie quand même, ça finit par le décès d'Edward Muybridge en 1904. Mais il y a aussi là un très amusant flipbook, alors qu'il est pas, il faudrait le découper pour pouvoir le faire s'émouvoir, oui. Mais de la mort d'Edward Muybridge.
Il y a quelques décès dans l'album, ouais.
Michel Poivert, il faut que je vous demande, avant de poursuivre dans la biographie et l'importance de l'œuvre d'Edward Muybridge, pourquoi est-il célèbre? Qu'est-ce qui l'a rendu si fameux pour les historiens de la photographie?
Ah, il est célèbre parce que il invente déjà. Il invente cette séquence visuelle avec cette chronophotographie, cette photographie temporelle par étape. Il la met au point. Il n'est pas le seul. L'ouvrage raconte très très bien le contexte. On y reviendra peut-être tout à l'heure. Alors ça, c'est une chose. Le personnage porte son invention à travers le monde, donc il en fait vraiment un spectacle. Les choses auraient pu en rester là, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'inventeurs qui sont un peu tombés dans l'oubli, mais comme le rappelait Guy tout à l'heure, cet ouvrage sur le mouvement est devenu une sorte de best-seller dans le monde de la création, tout au long du XXe siècle et encore aujourd'hui, et à un tel point que la postérité de Muybridge a été totalement porté par les artistes conceptuels à partir des années 1970. Quelqu'un comme Sol Lewitt, par exemple, hein, s'est beaucoup inspiré, mais quantité d'artistes contemporains sont repartis de ce livre. Alors ça, c'est tout à fait étonnant, parce qu'il y a un peu deux Muybridge. Il y a le Muybridge de l'histoire du 19e siècle, début du 20e siècle, et puis un Muybridge très contemporain.
Oui, justement, on y revient là tout à l'heure, si vous le voulez bien. Donc, Muybridge naît en... le 9 avril 1830, en Grande-Bretagne, et à l'âge de 25 ans, il s'embarque pour les États-Unis, Guy Delisle.
Oui, prêt à avoir une vie extraordinaire. Et au début, il est assez déçu parce qu'il est libraire à New York, et très vite, il s'ennuie. Il y a l'appel de la Californie, où il se passe plein de choses. C'est après la ruée vers l'or, et San Francisco est en train de se développer à toute vitesse. Il y va, il continue à être libraire. Alors lui, il avait une grande connaissance des livres, en fait. Et comme il était anglais, il amenait avec lui un peu la culture anglaise. Donc les Américains étaient fascinés par ça. Il se trouve qu'à San Francisco, ça marche pas très bien. En fait, il vend pas beaucoup de livres. Les gens sont occupés par beaucoup de choses, mais pas tellement par la lecture. Donc voilà.
Oui, vous dites qu'à l'époque, il n'y a pas beaucoup de culture en Californie.
Non, c'est ce que lui-même dit. Je pense pas que c'est... Donc il pense rentrer au pays et il a cet accident de diligence qui va changer sa vie. Voilà, il tombe dans le coma, il arrive à, et il rentre au pays en fait pour se faire traiter. Enfin, il va chez sa mère et il reste là pour essayer de récupérer un peu.
Alors justement, c'est là qu'on voit aussi pour la première fois dans pour une fraction de seconde le rapport de Muybridge au territoire américain. C'est-à-dire que bon, il y aura une deuxième partie, ce sera le rail justement, qui est aussi extrêmement important dans l'album. Mais cette diligence, voilà, à l'époque, c'est le moyen de traverser les États-Unis, et c'est justement ce moyen-là, en quelque sorte, comme si c'était le seul Américain lui-même, hein, qui va le transformer et faire quelqu'un d'autre de lui. C'est assez frappant.
C'est assez frappant, oui. Après, c'était le moyen le moins cher à l'époque et probablement le moins confortable, parce qu'on pouvait aussi prendre le bateau jusqu'au Panama, traverser le Panama et reprendre le bateau pour monter à New York. Donc, quand on avait 6 semaines à passer, pourquoi pas? Mais en diligence, c'était plus rapide, mais sûrement plus dangereux et moins confortable. Et bon, d'ailleurs, lui, il a payé le prix parce qu'il a fait 9 jours de coma. Et en sortant de ça, ses cheveux ont blanchi. Il est devenu le personnage que je dessine dans la bande dessinée après, donc tout blanc. Assez et assez colérique, et voilà, ça lui a aussi causé quelques soucis dans sa vie.
Un personnage, pas très sympathique, au sens où on est attaché à lui grâce à vous, mais on sent pas non plus quelqu'un de colérique, jusqu'on le verra, la plus grande violence, mais aussi absolument passionné au point de s'engager physiquement dans toutes ses activités.
Oui, voilà, lui, il part, il dit je vais visiter la vallée de Yosemite et je vais prendre des photos. Il engage quelqu'un, qui l'engueule et qui traîne le matériel, parce que tout ça était très pesant. Il prend un âne, il coupe des arbres quand ça le dérange pour faire une jolie photo qui sont dans le chemin. Et il est assez colérique, il s'engueule avec la plupart des représentants qui vendent ses photos et il essaie de monter sa propre boîte. Donc voilà, il est toujours dans l'action.
Alors dans les années 1860, hein, qui sont ses débuts comme photographe, d'ailleurs il y a un mystère, c'est qu'on ne sait pas exactement comment est-ce qu'il apprend la photographie, à quel moment est-ce qu'il... parce que c'est extrêmement technique à l'époque, hein, ça ne suffit pas d'appuyer sur un bouton comme aujourd'hui, bien au contraire.
Oui, il fallait avoir le laboratoire au complet avec soi, il fallait développer, il fallait être chimiste un peu, hein, et aussi bricoleur, parce que ces appareils, c'était des mécaniques un peu fragiles. Et, donc lui, il avait un peu tout ça, il a développé sa chimie, sa mécanique, et... Et il est passé par Paris parce qu'il y a eu récemment, on a su qu'il y avait un photographe qui s'appelait Elios à Paris dans un passage. Ça a été documenté sur un site que j'ai trouvé. Bon, quand on fouille l'internet, c'est fou ce qu'on trouve. Et donc voilà, il est revenu et on se demande s'il n'a pas appris pendant son séjour à Paris où il était venu pour vendre des brevets pour une machine à laver. Il avait eu une idée de motoriser ça, mais il s'est rendu compte qu'il y avait, je pense, une vingtaine de brevets qui étaient déjà déposés, donc il s'est dit ça va être compliqué. Il a fondé une banque et après, finalement, il s'est retourné vers la photographie. Qu'il a appris où, on ne sait pas exactement.
Peut-être comme apprenti, tout simplement, dans un de ces magasins de photographie, de portraitiste, de ces studios de portrait.
C'est possible. Il avait un copain qui faisait du portrait et on se dit qu'il y a peut-être ce photographe américain qui est assez connu avant lui aussi, qui faisait de la photo de paysage, qui l'aurait peut-être appris avec lui. Mais ça semble pas très sérieux quand on cherche un peu.
Michel Poivert, on s'interroge à l'époque sur l'intérêt de la photographie de paysage, puisque c'est quelque chose que fait bien la peinture, c'est bien le paysage. Alors pourquoi justement prendre tous ces risques, toutes ces difficultés pour aller au milieu de la vallée de Yosemite avec un laboratoire portable, une tente pour s'enfermer, parce que tout ça évidemment doit se faire à l'abri de la lumière, qui est la caractéristique première de la photographie, ce rapport à la fois à la lumière et au sombre, et mettre en place des temps de pause absolument gigantesques de l'époque hein, pour obtenir des photos dont on voit quelques résultats dans pour une fraction de seconde, hein, notamment des photos de cette vallée de Yosemite, dont on dit que finalement la peinture faisait bien bien mieux à l'époque. On y va sur le plan d'une forme de rendu ou de possibilité de donner ces paysages. Quel est le gros avantage de la photographie hein, dans ce cas-là à l'époque?
Bien, son avantage, c'est dans la tête que ça se passe, puisque c'est le réel. C'est-à-dire que ça va être une nouvelle relation au réel. On est à l'époque des explorateurs, hein. On a parlé de la ruée vers l'or. C'est la deuxième génération qui arrive. On va avoir de très grands portraitistes de paysages, si je puis dire. Mais c'est vrai que le paysage va devenir par excellence, à une époque où le temps de pose est en même assez long, le plus beau motif, hein. Pour des tas de raisons. Il y a cette question de l'exploration, de la conquête visuelle des paysages. On les découvre, il va falloir les diffuser, va falloir possiblement reproduire les images. Le tableau reste un objet, on va dire, de luxe, hein, qui peut être commandé, exposé, pas encore dans un musée, mais dans une grande demeure. La photographie, elle va apporter l'authenticité absolue de ce qui est vu. Le personnage est bien là, cette espèce d'ontologie, comme on dit, de la photographie, c'est du réel, hein, enregistré. On va avoir des points de vue aussi qui vont être nouveaux, hein, avec des points de vue qui vont différer un peu de ceux de la peinture. Tous les risques que prend Muybridge, comme le raconte très bien Guy Delisle, c'est quand même assez dingue, mais c'est vrai que les contraintes sont telles pour réaliser ces grandes plaques de très grand format qu'on peut se demander finalement pourquoi se donner autant de mal. On se donne autant de mal parce que la demande est là, c'est-à-dire que quand on a vu une photographie d'un paysage à ce niveau-là de détail, avec des négatifs aussi grands, eh bien on plonge dans le réel complètement autrement. Donc c'est une sorte de révolution de l'imaginaire en fait.
Guy Delisle et Edward Muybridge investit beaucoup pour vendre ces images. Il a aussi des commandes. On sent aussi là, voilà, un nouveau rapport au territoire américain. C'est qu'il en est aussi l'explorateur à plusieurs reprises, pour le compte même de l'armée parfois, de l'État. On le voit par exemple aller photographier l'État d'Alaska au moment où il est rattaché à l'Union. Donc ça, c'est aussi extrêmement intéressant dans cette biographie.
Ouais, parce qu'il a eu un tel succès avec les photos de la vallée de Yosemite, en fait, parce que pour les Californiens, c'est un territoire qu'ils ne connaissent pas, c'est très nouveau, l'État de Californie à l'époque, et ils se rendent compte qu'il y a des merveilles dans les paysages, et lui va les chercher, et il les fait découvrir aux Californiens qui disent wow, « on a un État qui est magnifique ». Et ça fait un tel engouement que l'armée vient le chercher en lui disant les Américains viennent d'acheter l'Alaska aux Russes. Et il y avait beaucoup de critiques, très curieusement, dans les journaux. On disait, mais pourquoi acheter un territoire qui est rempli de neige? Même si on nous le donnait, on n'en voudrait pas. Donc l'armée a dit, il faut qu'on fasse quelque chose. Donc on va prendre Muybridge et ils lui ont demandé d'essayer de faire ce qu'il avait fait avec la Yosemite, de la rendre populaire. Il est allé en Alaska, un des premiers, à photographier. Et on voit des prêtres orthodoxes russes qui sont là-bas, qui côtoient des gens des Premières Nations. Et très belles photos, comme d'habitude. Il est assez à l'aise avec les photos. Et même si là, c'est des photos de personnages, pourtant, il aimait pas faire des portraits, mais il fait un peu tout, voilà. Il fait du reportage, il est assez bon pour ça. Il revient et ça fonctionne. Les gens découvrent l'Alaska et disent, voilà, c'est un bon achat.
Guy Delisle, qu'est-ce que ça veut dire le reportage à l'époque? Est-ce que c'est un mot qui existe? Est-ce que c'est une...
Ah, c'est tout nouveau, ouais. Mais bien sûr, lui, il s'est fait un peu cette spécialité au début. Il se cherchait, il a fait portraitiste. Bon, ça, il a détesté parce que le rapport avec les gens qui devaient rester figés, il détestait ça. Donc, il voulait de l'espace. C'est pour ça qu'il est parti dans la nature. Ensuite, il y avait le tremblement de terre à San Francisco. Il est sorti avec son appareil photo pour photographier ça. La construction d'un bâtiment qu'il a pris en plusieurs étages comme ça pour voir d'une façon animée, d'une certaine façon, comment se construisait le bâtiment. Donc, il était là, dans la rue. Et on peut dire que c'était le début du reportage aussi.
Michel Poivert, vous parliez tout à l'heure du contexte photographique. Ce qui est frappant quand on lit pour une fraction de seconde, c'est de voir à quel point ces techniques sont aussi assez personnelles. C'est-à-dire que si on n'est pas dans l'uniformisation technologique, on ne photographie pas de la même façon quand on s'appelle Muybridge ou en Europe au même moment. Et donc on a l'impression que ces photographes sont chacun vraiment individuels, même sur le plan chimique, physique et technique.
Ben pour rebondir sur ce qu'on disait tout à l'heure, c'est une génération qui est autodidacte en grande partie. Il y a un peu de société savante, de société photographique, il n'y a pas encore les photoclubs, il n'y a pas d'école. Les photographes qui sont établis peuvent avoir des apprentis éventuellement, mais c'est une génération, celle de Muybridge, qui apprend la photographie tout seul. Alors, à travers des manuels, il y a beaucoup de manuels, donc on apprend les fameux tours de main. Parce qu'on a cité le collodion, qui est cette technique sur verre qui va permettre beaucoup de transparence et beaucoup de précision. Eh bien, il faut apprendre à faire les gestes, à les manipuler. Et effectivement, on prépare ce qu'on appelle son émulsion sur verre tout seul dans sa petite cabane noire. Et encore humide, on va la mettre dans la chambre photographique et on va faire la prise de vue. Donc, j'allais dire... Le photographe est singulier parce qu'il mène complètement son chemin avec son médium et aussi parce qu'il choisit, même s'il y a des commandes, il choisit souvent ce qu'il a envie de montrer. Et s'il le choisit, c'est parce que avant, en photographie, il n'y a pas grand-chose. C'est-à-dire qu'on est quand même sur un terrain, à la différence de la peinture, où il n'y a pas de tradition. Donc quand on a du caractère comme Muybridge et qu'on a un certain savoir-faire, qu'on a des idées et des commandes, où on a une certaine latitude, c'est le reportage, ça sera vraiment avec la presse illustrée, là on est plutôt dans le documentaire, je dirais. Eh bien, on est très singulier, ben parce que finalement, on innove. Il n'y a pas eu de vue photographique de l'Alaska avant lui. Donc, dire la personnalité, elle est du fait qu'on est sur une terre vierge.
Une terre vierge que Muybridge va documenter. Et c'est là aussi un deuxième aspect de son rapport à cet espace américain. C'est que tout ça, il peut le faire aussi grâce aux rails. Alors, de deux façons. La première, parce que, bon, évidemment, on peut maintenant traverser les États-Unis d'est en ouest par le Pacific Railway, mais aussi parce que son sponsor, dirait-on aujourd'hui, mais en tout cas, un de ses commanditaires importants qui va l'amener, justement, à cette fameuse découverte du mouvement, c'est Stanford, et que Monsieur Stanford vient de construire et le propriétaire justement de ce chemin de fer de l'île.
Oui, voilà. Donc on n'est plus obligé de prendre la diligence. Le chemin de fer va d'un bout à l'autre, probablement suite à la guerre de sécession où la Californie devait rester dans le giron des Nordistes. Donc ils ont vite construit un chemin de fer pour qu'il soit connecté. Et donc celui qui a remporté le contrat, c'est Stanford. Et avec ça, il est devenu l'homme le plus riche des États-Unis. Il aimait bien la photo et il a engagé d'abord Muybridge pour venir photographier son immense maison.
Et c'est très curieux d'ailleurs de se dire « Ah tiens, je vais me faire photographier ma maison, quelque chose que je vois tous les jours, j'ai envie de la voir en photographie. »
Chaque pièce, donc c'est l'album de la mansion, de Stanford Mansion, qui était pas à San Francisco, qui était à San Diego, je crois. Plus
Sacramento.
Sacramento, oui, voilà. Et donc après, il en a fait construire une beaucoup plus grande. Et il est à San Diego plus tard et il a demandé aussi à Muybridge de venir. Entre-temps, ils ont sympathisé. En fait, c'était deux personnages avec des caractères assez forts. Stanford était connu pour faire de longs silences qui mettaient tous les gens mal à l'aise. Et Muybridge, qui était un peu autiste, je crois, comme garçon, ça ne devait pas le déranger. Ils passaient des heures ensemble à papoter de Dieu sait quoi. Mais ils ont sympathisé. Et puis, évidemment, comme c'est un photographe qui était connu, et il était très fatigué, Stanford, par toutes ces... par toutes ses il est devenu aussi un homme politique et il a construit le chemin de fer. Et son docteur, un moment, lui dit, il faudrait vous trouver une activité qui vous calme. Donc, il s'est orienté vers les chevaux qu'il aimait beaucoup. Il a voulu savoir comment les chevaux couraient. Et ça l'a obsédé parce qu'il y avait des grandes écoles de gens très, très savants et très, très riches qui disaient, quand le cheval court, il quitte pas le sol. Il y a toujours une patte qui tient au sol. Et on disait à Stanford, mais bien sûr que oui, parce que s'il y avait une patte qui n'était pas sur le sol, le cheval s'effondrait. Donc, évidemment, Stanford était contre cet avis et il voulait savoir comment courait le cheval. Donc, il a demandé à Muybridge simplement de prendre une photo du cheval au galop. Il ne lui a pas demandé de faire une séquence, ça viendra plus tard. Mais les premiers essais, c'est des photos avec toujours la technique du collodion humide. Donc, on imagine bien où à l'époque on photographiait. Mais c'est pour ça, voilà, que je mets le contexte. Donc à l'époque, les gens photographiaient encore avec un chapeau devant l'objectif et on comptait jusqu'à 10 et on remettait. Et puis c'était peut-être un peu flou, mais bon, ça passait. Et Muybridge devait lui arriver à 1/500 de seconde, 1/1000 de seconde. Et c'est là qu'il a commencé à travailler sur l'obturateur à guillotine et arriver à faire sa photo. Mais ça a pris quelques années. Donc il a travaillé avec Stanford pendant à peu près une dizaine d'années.
Et Stanford était entre autres éleveur de chevaux, c'est-à-dire qu'il avait des centaines de chevaux apparemment.
Oui, et puis il avait gagné des prix, il commençait à devenir quelqu'un d'important dans le monde du chevaux et ça lui tenait beaucoup à cœur. Et comme il entraîne les chevaux quand ils sont très très jeunes, d'une certaine façon, pour qu'ils musclent telle partie de leur corps, et il voulait savoir, en regardant très près le mouvement du cheval, il pourrait savoir comment exactement élever pour gagner plus de prix, parce qu'il en avait déjà quelques-uns et ça lui plaisait. Et on calcule que pour arriver à avoir la photo qu'il a eue avec Muybridge, donc cette photo du cheval au galop qu'il a réussi à faire, il a dépensé aujourd'hui l'équivalent d'un million de dollars quand même.
L'équivalent d'un million de dollars d'aujourd'hui.
D'aujourd'hui, oui.
Pour un cliché.
Voilà. Mais ça demandait toute une équipe, parce qu'après, évidemment, il a eu une photo qui était un peu floue, il était content. Quelques années après, il dit, il faut qu'on ait une séquence. Je veux voir tout le développé du cheval. Et c'est là que Muybridge est arrivé avec son idée géniale de mettre 12 appareils photo, de les faire déclencher avec une corde. Et quand le cheval passe, c'est le cheval qui prend la photo. Et voilà. Et c'est devenu une technique que Muybridge a utilisée après pendant très longtemps.
Alors Michel Poivert, il faut dire quelque chose de cette idée de flou et de net, qui est quand même, je pense, extrêmement importante à l'époque, parce que on veut pas, en tout cas, ce que cherche Stanford, c'est non seulement avoir son cheval, à deviner la décomposition du possible du mouvement, mais aussi de l'avoir net. Est-ce que c'était une des grandes questions de la photographie de l'époque, le flou dans le mouvement?
Le flou et le net, c'est un des très très grands débats de l'histoire de la photographie, j'allais dire encore aujourd'hui, parce que c'est pas qu'un débat technique, c'est aussi un débat esthétique, on l'a compris. Alors la réduction du temps de pose, c'est une aventure incroyable qui dure pratiquement jusqu'en 1900, hein, où on va réussir à être dans la fraction de seconde avec de nouvelles émulsions argentiques, mais à l'époque, notre pionnier, hein, Muybridge, il va s'inscrire dans cette aventure de la réduction du temps de pose, justement, pour une raison technique, aboutir à une netteté parfaite. Mais la netteté parfaite, on l'a très très bien devant un paysage, il n'y a aucun problème. Donc il y a une esthétique du net. Mais ce n'est pas ce net-là hein, qu'il cherche, c'est vraiment le net de l'arrêt sur image, on dirait aujourd'hui en cinéma, de l'arrêt sur image. Le flou, non seulement il peut être relativement toléré, parce qu'on n'a pas besoin toujours d'une information aussi précise dans la photographie, mais surtout, il est aussi un choix esthétique. À la même époque de Muybridge, on a Lady Maria Cameron, qui est sa consœur, si je puis dire, en Angleterre, qui va instituer cette esthétique du flou, hein, avec ce côté vaporeux extrêmement doux que la génération d'après, les pictorialistes, vont reprendre. Donc le flou peut être un choix. Dans le cas de Muybridge, c'est pas un choix, c'est pas une option retenue par rapport à son aventure, qui est une aventure qui va l'amener vers la conquête, on pourrait dire, de l'instant parfait.
Alors pourtant, ce qui est frappant, c'est que ce qu'on apprend pour une fraction de seconde, c'est que justement, Muybridge arrive à déclencher son obturateur à des vitesses qui sont assez incroyables, dont 1/500 de seconde, 1/1000 de seconde, ce qui nous paraît, vu depuis aujourd'hui, avec les moyens techniques dont il dispose, assez compliqué.
Oui, alors il descend dessous de la seconde, hein, c'est très bien raconté, mais l'obturation, ça fait pas tout. Il faut avoir suffisamment de lumière, donc on a un dispositif qui est très bien aussi raconté dans l'ouvrage, de dais blancs pour que le soleil se reflète, donc le réflecteur, on appellera ça tout simplement. Mais son système par guillotine, qui fonctionne très bien une fois qu'il l'a électrifié, s'adresse à une émulsion au collodion qui reste moins sensible que celle qui va être argentique plus tard. Donc on peut aller très très vite en obturation, mais on n'a pas nécessairement derrière l'émulsion photosensible qui va répondre aussi vite. Donc voilà, tout ça c'est un dispositif tout à fait génial et qui va vraiment aboutir quelques années après.
Guy Delisle, il faut faire une petite parenthèse dans la vie de Muybridge, ou plutôt revenir à quelque chose de beaucoup plus personnel, qui est, alors là, pour le coup, assez incroyable. Il a aussi peut-être un autre rapport à cette histoire des États-Unis, à cette violence de l'Ouest, à cet objet qui est le pistolet, le revolver de l'époque. C'est que Muybridge va être jugé pour l'assassinat de sa femme.
Voilà.
De l'amant de sa femme.
De l'amant de sa femme, ouais. Alors qu'il travaillait sur les photos, il avait déjà fait une deuxième tentative et ça commençait à se concrétiser. Il apprend que non seulement sa femme le trompe, mais que le fils qui croyait être le sien est probablement celui de l'amant de sa femme. Donc, il entre dans une de ses colères homériques et il prend son pistolet et il descend voir. Ce type qui et il lui dit voilà, j'ai un message de la part de ma femme, et il le tue à bout portant. Voilà, il dira plus tard que il se livre à la justice immédiatement. Il est jugé et il déclare que voilà, il a fait ce que un homme du Far West devait faire. Il a réglé son compte à quelqu'un qui fricotait avec sa femme. Les jurys, qui sont tous des hommes mariés dans un état où il y avait deux femmes pour trois hommes, le déclare non coupable et il sort sous les applaudissements de la foule et du jury. Donc après, il s'en va faire un petit tour pour se faire oublier pendant six mois vers le Nicaragua et faire un reportage photographique qu'il avait prévu à l'avance. Sa pauvre femme attrape la fièvre typhoïde et elle meurt. Et voilà, il s'occupe de cet enfant, pas très bien, et il le place à l'orphelinat dès son jeune âge. Et il le voit jusqu'à l'âge de 18 ans quand même. Mais voilà, comme il considère que c'est pas son fils, voilà, il le voit pas souvent.
Mais Guy Delisle, il faut parler un peu de dessin là aussi, parce que là aussi, dans la scène du pistolet et du coup de feu, il y a aussi un hommage un peu à cette décomposition du mouvement très Muybridge dans le. Est-ce que vous êtes amusé là? Vous êtes dit voilà, c'est le moment.
C'était un des moteurs de l'envie de faire cet album. En fait, c'était de prendre des séquences, la diligence quand il y a son accident qu'on voit en fraction de seconde, et évidemment le coup de fusil, parce que quand il tue cet homme, l'amant de sa femme, je me suis amusé à faire la balle qu'on voit traverser sur deux pages, case par case. Bon, là c'est le plaisir de l'animateur qui profite un peu d'avoir deux pages de bande dessinée pour faire voilà cette séquence qui est importante, parce que dans sa vie ça tout chamboulé après. Il a réussi à s'en sortir, il risquait la peine de mort quand même, donc et il est passé de très près, et à la fin de sa vie il a dit la seule chose que je regrette, c'est qu'il n'ait pas souffert plus longtemps. Donc c'était pas un homme facile, hein, et voilà, il s'en est sorti et il est retourné après faire son travail avec Stanford.
Alors je sais pas si ça a à voir avec le Edward Muybridge réel que nous ne connaîtrons jamais, mais néanmoins on sent une certaine obsession quand même pour la photographie, hein. C'est-à-dire que il est libéré, il est acquitté, tout ça, et hop, il se remet immédiatement à repartir avec ses photos, que vraiment
oui, Stanford, une forme d'obsession. Stanford vient le chercher, il dit il faut qu'on continue en fait, et Stanford a envoyé son avocat aussi pour le défendre. Il tenait à ce que son photographe réussisse à s'en sortir. Et c'est après que ça a fonctionné. Ils ont réussi à mettre ces 12 appareils photo et faire ce qu'on utilise encore aujourd'hui, parce que je le mets dans l'album. Matrix, c'est exactement la même technique, en fait, qu'on appelle aujourd'hui le bullet shot. Donc, de faire une fraction de seconde où, voilà, le personnage de Neo reçoit des balles et il arrive à les éviter tout en se penchant à 90 degrés. Et voilà. Et je me dis, c'est dommage qu'on ne l'ait pas appelé le Muybridge shot, parce que Muybridge s'y connaissait en armes à feu et en boulettes aussi. Ouais.
Donc il faut revenir vraiment à ce moment incroyable de cette décomposition du mouvement et au voyage aussi de Muybridge en France. Et pour ce faire, nous avons une petite archive.
Quelques années plus tard, Marais va inviter effectivement Muybridge à venir en France en 1881. Et Muybridge va venir à deux soirées importantes. Une soirée composée de savants, où il va présenter ses photographies, ses instantanées photoélectriques, à l'aide d'un zoopraxiscope. C'est un appareil qui permet de projeter ses photos et de les mettre en animation. Et en même temps, ils vont être invités chez Meissonier, le célèbre artiste de Napoléon III, l'artiste officiel, qui se voulait le plus grand réaliste de tous les temps. Et Muybridge va présenter ses photos. Alors, à l'époque, Marais ne faisait aucune photographie. La chronophotographie n'était pas encore inventée. Hein. Et donc, Meissonier va être assez frappé, comme les autres artistes qui participent à cette soirée, par ses photos. Mais en même temps, Meissonier va un petit peu se bloquer en disant « Moi, ce qui m'intéresse, c'est ce que je vois à l'œil nu. Vous, c'est ce que vous voyez avec votre appareil photographique. » Et on s'aperçoit quelques années plus tard que, juste un petit peu avant sa mort, Meissonier va corriger toutes ses esquisses et va les rendre plus réalistes, si vous voulez, par rapport aux photographies, alors à l'époque, à la fois de Muybridge et de Marais, puisque Marais a entre-temps mis au point le fusil photographique en 1882, 3 ans et demi après l'invention par Muybridge de ses instantanées photoélectriques. Alors, la grande différence entre le fusil de Marais et le dispositif de Muybridge, c'est que le fusil de Marais, il y a une seule plaque sur laquelle sont enregistrées toutes les prises de vue. Alors que dans l'expérience de Muybridge, ce sont des caméras différentes. Donc, en fait, on s'aperçoit que le point de vue de Marais est beaucoup plus scientifique, unicité de point de vue, et surtout, même temps aussi, puisque c'est sur une plaque, en une seconde, la plaque s'arrête chaque fois 12 fois. Donc ça veut dire 1/700 de seconde parfois. Donc ça va extrêmement rapidement. Et Marais obtient ainsi, le premier au monde, le déroulement du vol d'un oiseau. Marais avait demandé à Muybridge de faire cette expérience sur les oiseaux, et Muybridge n'est pas arrivé. Ça va trop vite un oiseau. On ne peut pas utiliser le même dispositif qu'il utilisait pour les chevaux. Et donc Marais avait été un petit peu déçu, et c'est ce qui l'a vraiment poussé à inventer son fusil. Et ce fusil, nous l'avons au musée Marais. Il y en a un second qui existe au CNAM, au Conservatoire National des Arts et Métiers à Paris. Il n'y en a eu que deux.
Nous venons d'entendre Marion Lebas, à l'époque conservatrice du musée de Beaune, dans une archive de 1995, nous parler des rapports entre E.M. Marais, le français, et E.M. Muybridge, l'américain ou le britannique. Michel Poivert, je me tourne vers vous. Étienne Jules Marais et Muybridge, ce sont des intérêts distincts qui obtiennent des résultats convergents.
Oui, Marais, comme c'était rappelé, c'est un médecin, c'est un physiologiste, il est passionné par le mouvement. Un peu comme Stanford, mais dans un autre univers. C'est un passionné du mouvement qui va chercher des techniques d'inscription, d'enregistrement, pas nécessairement visuel, d'ailleurs plutôt graphique, ce qu'il appelle sa méthode graphique. Et quand il découvre la photographie, qui est graphique, photographique, hein, il va prolonger tout son système d'inscription avec celui de l'image. Et notre la personne qui nous a tout expliqué l'a parfaitement fait. La grande différence, c'est que Muybridge inscrit tout le mouvement sur une seule plaque. C'est-à-dire que c'est un phénomène de superposition, alors que chez Muybridge, c'est un phénomène de séquentialisation. Alors, dans les deux cas, on apprend beaucoup de choses, mais esthétiquement, parce que je pense que Muybridge a une dimension d'artiste, alors que Marais a une dimension de scientifique, ils se rejoignent par la création, mais une création qui a des socles un petit peu différents, on va avoir deux solutions. Les deux vont être très importantes dans le champ de l'art, de l'histoire de l'art et de l'histoire de la photographie, évidemment. Mais on peut dire que Muybridge va répondre à son époque à une grande énigme, qui est celle de la course du cheval. Parce que ça pourrait paraître anecdotique, mais la représentation du cheval en mouvement, c'est le grand exercice académique. Hein, on a rappelé Meissonier, hein, c'est le grand exercice académique. Et faire le cheval, réussir le cheval en course, c'est quand même un défi artistique. Et jusqu'à présent, enfin, jusqu'alors en tout cas, et l'ouvrage le montre bien, eh bien quand le cheval chez Degas ou chez d'autres était représenté en pleine action, quand il quittait le sol, il avait deux pattes en avant, deux pattes en arrière, comme un crapaud. Et aujourd'hui, ça nous semble presque primitif. Hein. Et donc, Muybridge, eh bien, il amène ce quotient naturaliste parfait, quoi.
Guy Delisle, il faut dire quelque chose de ce peintre Meissonier. Mmh. Là aussi, autre chemin de fer. Alors, c'est plutôt une draisine, mais c'est assez passionnant, cette affaire.
Voilà. Alors, chez lui, dans sa propriété, il construit un petit chemin de fer sur lequel il en pente douce, sur lequel il roule. Et un assistant avec un cheval court au galop, au grand galop, et il essaie tant bien que mal, de suivre ce cheval sur son rail à toute vitesse et d'observer la... Il était passionné, c'était le plus grand peintre de l'époque, Napoléon III achetait ses tableaux, il pouvait refuser des grands contrats. Et voilà, donc il était jusqu'au boutiste, et à la fin il essayait de dessiner le cheval au galop. Il n'y est jamais vraiment arrivé, en fait, parce qu'il a lui-même transformé un peu le dessin du cheval, et on disait voilà, parce qu'il est très connu maintenant, il se permet de changer, on dirait que le cheval tombe, donc il y avait toute une polémique. Et quand Muybridge est arrivé avec ses photos, on a dit ah ben en fait oui, c'était ça, il était dans la bonne direction. Mais malgré tout il est revenu sur certains tableaux qu'il a refait, parce que maintenant qu'il avait vu les images, il s'est dit « Ah, c'est plutôt comme ça ». Donc on était vraiment dans une recherche photographique.
Ce qui est fou, c'est que les images peintes étaient tellement puissantes dans l'imaginaire des peintres, non seulement des peintres eux-mêmes, mais aussi du public, qu'on, même quand on voit les photos, on n'y croit pas. C'est-à-dire cette photo du cheval avec ses quatre pattes repliées sous lui, voilà. À quelques centimètres du sol, on dit « Ah, c'est comme une araignée morte, voilà. C'est bien évidemment sûr que jamais un cheval ne pourrait courir ainsi ».
Non, c'est-à-dire que ce qu'ils croyaient, c'était que le cheval, justement, il avait les deux pattes devant, les deux pattes derrière, et à ce moment-là, il quittait le sol. Ils n'avaient pas imaginé que c'était en se regroupant que ses pattes quittaient le sol. Donc ça, c'était une découverte, même pour ceux qui imaginaient que c'était possible qu'ils quittent le sol. Et Muybridge s'amusait d'ailleurs dans ses présentations, parce qu'il projetait les images, il les animait, il ne faisait pas que montrer des photos. Il avait inventé ce zoopraxiscope, ils avaient tous des noms à coucher dehors, et il avait redessiner les chevaux sur des plaques de verre qui faisaient tourner. Donc il était le premier à projeter des petits films quand même. Quand on y pense, c'est 15 ans avant les Frères Lumière. Et il a fait des entrées payantes. Et il s'amusait à projeter l'image. Et les gens disaient « Bon, oui, est-ce que c'est vrai ?» Et tout à coup, hop, il faisait tourner sa machine. Et là, on voyait le cheval qui galopait. Et les gens étaient en grande admiration. Ça faisait les grandes lignes des journaux. Et tout le monde parlait de cette soirée où il y avait eu quand même 200 personnes qui étaient venues voir ça chez Marais, mais chez Meissonnier.
Mais Michel Poivert, il y a deux choses là-dedans. D'abord, la possibilité de revenir à l'illusion du mouvement à partir de l'image fixe. Ça, ce sera plutôt la deuxième partie, ce qui sera le grand destin un des grands destins de la suite de l'aventure de Muybridge. Mais il y a aussi ce rapport entre la peinture et la photographie qui est absolument fascinant, c'est-à-dire deux formes d'image fixe dont l'une, la photographie, est aussi un moyen technique pour améliorer en quelque sorte la peinture à l'époque. C'est-à-dire que les peintres, se servent de la photographie et l'utilisent au quotidien de plus en plus pour leurs tableaux.
Oui, alors c'est un peu ce qu'on a pu appeler à un moment donné l'histoire secrète de la peinture. On pourrait même remonter à l'usage, c'est connu avec David Hockney, il a très bien raconté cet usage de la lentille, de la loupe. Bon, ben, dès que la photographie arrive, évidemment, les peintres s'en emparent. C'est très bien raconté, d'ailleurs, ça peut être aussi bien pour avoir un modèle statique et puis pas payer un modèle, ou parce qu'un modèle a une pose qui est extrêmement compliquée. Ça, c'est disons, le niveau zéro, un petit peu, de l'utilisation de la photographie. Mais après, il y a la culture visuelle qui se met en place avec la photographie très vite, la précision, la question de la lumière, la question bien sûr après de la séquentialisation. Les peintres utilisent la photographie, ils ne le disent pas nécessairement, mais ça fait partie de leur nouveau bagage, de tout ce qu'on pourrait appeler la mécanisation du dessin, tout ce qui est un petit peu l'amélioration. Mais au-delà de l'aspect technique, c'est vraiment à un moment donné une autre culture visuelle. Et le cas de la course du cheval est vraiment emblématique. Vous l'avez rappelé, jusqu'à présent, on ne le représentait pas comme ça. Ça nous semble étrange aujourd'hui, mais parce qu'en fait, les codes ont changé. C'est-à-dire que l'intrusion de la photographie du cheval avec les pattes regroupées semble bizarre à l'époque, mais est un peu une révélation. Mais il faudra du temps avant qu'on admette que la convention, maintenant, ce sera celle-ci et non plus la précédente. Alors c'est une convention parmi d'autres, mais disons qu'elle a cette vertu d'être expérimentée, vérifiée par le point de vue technique de l'appareil photographique. Donc elle est réaliste au sens peut-être presque premier du terme.
J'ai toujours été frappé par le fait qu'il a fallu l'invention de MyBridge, la photographie d'hommes se déplaçant, enfin la photographie en séquence d'hommes se déplaçant et de chevaux, et surtout de chevaux, pour que dans la peinture, du jour au lendemain, l'on puisse peindre le galop, un cheval au galop suspendu, arrêté, de façon correcte. Il a fallu ça. Mais la photographie nous donne l'image et la référence convenue, conventionnelle, de la représentation du réel. Ceci étant, un peintre ne pourrait pas observer la réalité objective de la photographie. Un déplacement, un flou, il ne peut pas le saisir. La corrida elle-même, dans son déroulement, je crois que c'est Bergamin qui a écrit des choses définitives sur la musique suspendue. Je crois que la traduction française était le temps suspendu, je crois. Et le titre espagnol de son ouvrage était la musica callada, la musique tue. Et ce titre donnait bien cette dimension comme ça d'esthétique figée dans la corrida elle-même et dans le mouvement qui, quand il est parfait, quand il est si beau, s'arrête pour tout le monde et se développe dans un espèce de ralenti percevable par tous et apprécié quand il est porté au plus beau, quoi.
Nous venons d'entendre le peintre Christian Gaillard, dans une archive de 1994, parler de cette musique suspendue du mouvement. Et ce qui est fascinant chez Muybridge, Guy Delisle, c'est qu'il réunit les deux, à la fois le plus figé dans l'expérience de la mort, le portrait des morts, vous racontez, vous dessinez ça, l'époque où on met en scène le décès, la mort, et puis l'impossibilité de la capture de la vie dans ce qu'elle a de plus complexe, qui est justement son mouvement.
Oui, souvent à l'époque, les gens avaient très très peu de photos d'eux-mêmes, des portraits, et quand les gens décédaient, il était important de garder une trace. Donc il y a eu tout un mouvement, ça n'a pas duré longtemps, mais on photographiait les gens décédés, et on les a mis assis, debout, et ça a fait des drôles de photos. À cette époque victorienne, tout habillés, avec leurs frères et leurs sœurs. Donc j'en parle, parce que c'était quand même une pratique qui apparemment existe encore un peu dans les pays de l'Est, c'est ce qu'on m'a dit. Et aujourd'hui, ça se fait plus tellement. Et aujourd'hui, la différence avec la photo, c'est que maintenant, on a des portraits des gens de tous les âges, à tous les moments. En faisant cet album, je me disais, aujourd'hui, le rapport qu'on a à la photo est tellement différent. On se préparait à une photo, on prenait la photo, c'était tout un événement. Et les gens étaient tellement fascinés par des photos autres que eux, quand c'était la première fois. D'ailleurs, quand on les prenait en photo, ils disaient, tiens, mais c'est pas moi. Ils se reconnaissaient pas dedans. Je crois que c'est une habitude aussi qu'on a maintenant de se voir en photo et de s'accepter. Mais les gens disaient, mais c'est pas moi. Quand ils voyaient des photos d'autres personnes, c'est tellement réaliste qu'ils disaient, mais est-ce que eux, ils peuvent nous voir? Donc ça, je trouvais ça assez fascinant parce qu'ils pensaient que c'était un miroir. D'ailleurs, c'est ce qu'on disait de la photo au début, c'était un miroir permanent.
C'est le point vert.
Oui, les croyances ont été nombreuses dès le début, et j'allais dire presque jusqu'à aujourd'hui, avec ce rapport à la réalité, à la vie, à la mort. Fixer le mouvement, c'est un grand paradoxe, parce que c'est à la fois interrompre la vie et en même temps la représenter. Et on l'a compris, c'est une convention. Ce n'est pas notre œil humain qui regarde, mais bien une mécanique, un mécanisme qui est corrigé d'un point de vue de la géométrie, du point de vue de sa chimie. Et donc, ça nous offre des images qu'on a complètement naturalisées. Aujourd'hui, on se reconnaît sur les photos. Alors que, comme disait très bien Barthes, la photographie, ça vous dénarcissise. On s'aime très rarement aux photos. C'est pour ça qu'on n'a pas envie de se reconnaître. Mais c'est vrai que c'est une époque où, que ce soit la photographie post-mortem, que ce soit peu à peu la mode de la photographie spirit, où on va commencer à faire des montages pour faire croire qu'il y a des spectres qui sont dans les images. L'idée qu'on va voler l'âme quand on va photographier des peuples lointains et qui sont très interloqués par cette machine. Oui, il y a quelque chose qui est extraordinaire avec ce média visuel, cette médiation visuelle, c'est que elle attrape, elle prend, elle retire, et finalement, en nous donnant à voir du réel, elle fabrique des fantômes. Et ça, c'est vraiment une des grandes approches de l'histoire de la photographie, même aujourd'hui, qui est de la concevoir comme un média qui, comme l'enregistrement sonore d'ailleurs, c'était la grande idée d'Edison, j'enregistre les fantômes d'aujourd'hui pour demain. Donc c'est cette croyance. Et donc la science, le côté scientifique dont on parle avec la séquentialisation du mouvement, elle va de pair aussi avec des mystères. Et c'est ça qui la rend vivante.
Idéalisme.
Les gens, même, ils disaient au début, mais quand les personnes vont être décédées, est-ce qu'on pourra garder leur portrait? En fait, ils n'arrivaient pas à faire le lien entre... Et ça, je trouvais ça fascinant. Ouais, j'aimais bien montrer ces détails du début. Ben, Rodin avait commenté, il était allé voir la présentation de Muybridge à Paris. Et il avait dit, certes, c'est sûrement la réalité, mais dans la réalité, le temps ne s'arrête pas, en fait. Donc lui, en tant que sculpteur, il voyait les choses d'une façon très artistique, très différente.
À l'auditeur.
Bon, alors peut-être que vous comprenez pourquoi, tout d'un coup,
là, la rencontre, la confrontation avec le cinéma se fait. Et pourquoi dans l'évolution créatrice, Bergson bute contre cette naissance du cinéma? Car le cinéma arrive avec son ambition, fondée ou non fondée, d'apporter non seulement une nouvelle perception, mais une nouvelle compréhension, une nouvelle révélation, une nouvelle manifestation du mouvement. Et, à première vue, Bergson a une réaction très hostile. Sa réaction, elle consiste à dire, eh ben oui, ben vous voyez, le cinéma, il ne fait que pousser à l'extrême l'illusion de la fausse constitution du mouvement. En effet, avec quoi procède le cinéma? Il fait manifestement partie de la mauvaise moitié, en apparence. Il procède en prenant des coupes instantanées sur le mouvement et en les soumettant à une forme de succession d'un temps uniforme et abstrait. D'après la méthode même, qu'est-ce qu'il devrait nous dire, un fantôme de Bergson? Ce que nous saisissons dans l'expérience, notre perception naturelle, c'est toujours une perception de mélange. On ne perçoit que des mixtes. On ne perçoit que de l'impur, des mixtes d'immobiles et de mouvements, etc. On perçoit des mélanges. Mais précisément, la perception cinématographique, ce n'est pas la perception naturelle. Pas du tout. Le mouvement n'est pas perçu au cinéma, le mouvement d'un oiseau au cinéma n'est pas du tout perçu. Je parle en termes de perception, hein, n'est pas du tout perçu. Comme le mouvement d'un oiseau dans les conditions naturelles de la perception. Le cinéma a inventé une perception. Le cinéma nous propose ou prétend nous proposer une perception que les conditions naturelles de l'exercice de la perception ne pouvaient pas nous donner, à savoir la perception d'un mouvement pur, par opposition à la perception du mixte.
Nous venons d'entendre le philosophe Gilles Deleuze dans un extrait de son cours de l'université de Vincennes consacré à Bergson et au mouvement, à ce qui deviendra l'image-mouvement dont on sait l'importance dans l'œuvre de Deleuze. Qu'est-ce que c'est que cette impossibilité finalement du mouvement au cinéma, ce rapport à la réalité? Est-ce qu'il ne faut pas admettre en quelque sorte, à un moment, et c'est l'invention du cinéma, que on invente une autre perception que celle du réel, qui est cette fameuse image mouvement, qui a appelé évidemment un très grand avenir, Guy Delisle.
Oui, alors qu'au début c'était pas évident, on le voit dans les histoires dans le début de l'album, c'est-à-dire que on l'oublie, mais le cinéma, c'est un paquet de photos mises une par-dessus l'autre et qui tournent à toute vitesse. Et souvent, voilà, c'est pour ça que ça se télescope et je voulais le mettre dans l'album. C'est-à-dire que le début de fait la photo, on a très vite compris qu'on pouvait prendre plusieurs photos et en faire un film. Et à l'époque de Muybridge, donc jusqu'à 1904, il y a eu des balbutiements avec ce cinéma. En fait, alors, la perception qu'on en a est assez différente d'une à autre. Il y avait les forains qui passaient leur type de film. Après, il y a eu Edison qui est arrivé avec son cinéma, qui a été influencé après et par les frères Lumière. En fait, tout le monde s'est un peu copié. Muybridge est arrivé avec son appareil, Edison l'a copié, et après les frères Lumière ont copié Edison. Et voilà. Bon, après ça c'est le côté mécanique, la perception du film. Bon, je crois qu'il est personnel à chacun.
Justement, Michel Poivert, c'est là aussi l'intérêt de ce passage entre la photographie et le cinéma, c'est que la photographie, en se multipliant, en s'animant, invente une réalité totalement distincte de celle dont elle a été extraite au départ, qui était lui-même le premier mouvement de ces oiseaux, de ces chevaux, hein, et fabrique voilà, un monde qui s'accorde à nos désirs.
Mais j'oserais dire qu'il y a un immense malentendu entre la chronophotographie et le cinéma, puisque Muybridge, comme Marais d'ailleurs, sont avant tout intéressés, passionnés, motivés par la séquence en tant que ralentissement, que séparation, que façon de décortiquer ce qui les intéresse. C'est ça, c'est mettre à plat le mouvement, hein. C'est le décomposer. Et puis, quand Muybridge a cette idée pour convaincre, pour montrer, pour faire d'une certaine manière un peu un spectacle, de recomposer à partir des dessins faits, à partir de ces photographies, en faisant une animation de projection qu'on connaît depuis longtemps, mais qui va être basée sur ces photographies, on va voir le mouvement se reconstituer et, d'une certaine manière, le cinéma, si on veut l'appeler comme ça, en tout cas le film, apparaître. Mais l'intention de départ, c'est ça qui est intéressant, c'est la preuve par la déconstruction. Et en fait, la recomposition, ça va être le versant ludique qui arrive tout de suite. Hein, c'est pas du cinéma scientifique qu'on va faire. C'est du divertissement dans les fêtes foraines, dans les salons, puis dans les salles de cinéma. Et c'est ça qui est intéressant, c'est comment finalement le cinéma s'est inventé sur un principe qui nie ce qu'il nous propose. C'est-à-dire que la décomposition est recomposée, et nous, 18 secondes, puis de 24 images secondes, nous ne voyons plus, la persistance rétinienne fait que nous ne voyons plus les collages ou l'empilement des photographies, appelons-les comme ça, les photogrammes. Et puis l'illusion opère, et bien sûr, plus il y a de mouvement, plus l'illusion est profonde. Et Deleuze le dit très bien, il s'invente un mode de perception qui n'a rien de naturel.
Guy Delisle, est-ce que la bande dessinée, finalement, n'est pas directement, sans passer par le cinéma, un peu aussi l'héritière? Et c'est ce que vous montrez dans vos images découpées les unes après les autres. Est-ce que la bande dessinée ne provient pas par un autre endroit un peu détourné de cette décomposition du mouvement de Muybridge, de cette possibilité, finalement, de passer d'une perception visuelle à la case?
Oui, la bande dessinée, elle est à cheval entre plusieurs choses, entre le mouvement, parce qu'on peut l'exprimer sans vraiment le montrer, comme la photo. On est sur le texte et sur le dessin, en créant une narration qui est ni littéraire, qui est ni de la peinture, mais qui est l'art séquentiel, donc la bande dessinée. Et on peut en plus rajouter des flipbooks dedans, donc ça c'est quelque chose que j'aime bien faire. Moi, quand j'étais jeune, souvent il y en avait dans des livres pour enfants. Et venant de l'animation, moi j'ai pas pu résister à le faire. Et donc il y a tout ce mélange. On peut représenter le mouvement, on peut essayer de représenter le son, ce qui est un peu difficile, et le mouvement avec des traits. Donc c'est comme un patchwork de plusieurs outils qu'on essaie de mettre pour au final faire une narration, raconter une histoire. Mais oui, moi j'aime bien ce mélange parce que il y a quelque chose d'efficace, c'est-à-dire qu'on va toujours chercher quand on est devant la page, on dit comment je peux exprimer ça. Un dessin suffira, ou un dessin, un texte suffira, un peu de mouvement suffira, et il y a toujours une façon la plus rapide, la plus efficace. Et c'est pour ça que j'aime la bande dessinée, parce que c'est toujours assez et concentré, et c'est une façon qui me correspond bien de raconter une histoire, de côté concentré.
Michel Poivert, pour conclure, il faut dire quelque chose peut-être justement de la toute dernière postérité de Muybridge, qui sont justement ces artistes américains des années 70 qui s'intéressent de nouveau et de façon très profonde à son œuvre.
Oui, on pourrait s'en étonner, mais en fait, il y a, je crois, dans l'ouvrage clé de Muybridge, hein, sur le mouvement, dans ces planches qui décomposent le mouvement, il y a quelque chose qui va énormément séduire les artistes de cette génération. D'abord, la photographie comme document très prosaïque, très technique, c'est-à-dire sans affect, quelque chose qui serait surtout pas de l'art. Donc, chez les artistes conceptuels, c'est très intéressant, surtout pas de belles photos. Et puis, la série, la notion de sérialité qu'on va trouver chez pratiquement tous les artistes conceptuels, où il y aura ce côté répétitif, cette façon d'aller chercher, je dirais, une pensée du monde, hein, dans quelque chose qui est un peu scientifique comme ça. Et puis, chez d'autres, je pense au peintre Velikovic, hein, le grand peintre français qui a beaucoup utilisé le mouvement. Hein, c'est-à-dire, on voit des petits personnages de Muybridge qui sont peints dans des toiles très rouges, comme ça, très puissantes. Et Il y a vraiment des travaux autour de cette postérité dans l'art contemporain de Muybridge qui était totalement foisonnante. On pourrait croire qu'il y a deux, trois exemples. Non, c'est foisonnant. C'est un livre qui traîne dans tous les ateliers d'artistes aux États-Unis et en Europe. C'est tout à fait étonnant. Et puis, j'ai envie d'ajouter une chose que j'ai beaucoup pensé à mes étudiants en lisant la bande dessinée. qui vraiment est extrêmement complète hein, en termes de à la fois de contenu technique mais de contexte et je vais m'en servir.
Merci beaucoup Michel Poivert, merci beaucoup Guy Delisle. Pour une fraction de seconde, La vie mouvementée d'Edward Muybridge est parue aux éditions Delcourt. Cette conversation littéraire était réalisée par Camille Mathy avec Jean-Guilain Meige à la technique aujourd'hui. La préparation était assurée par Aurélie Marsay. Nous nous retrouverons samedi prochain à la même heure, mais d'ici là, vous pouvez réécouter ou podcaster la conversation littéraire sur l'appli de Radio France ou le site de France Culture.